Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Tanger vient d'abriter la 8e édition de l'African Special Economic Zones Annual Meeting, un événement qui a fédéré une soixantaine de zones économiques de 48 pays. Nous y revenons dans quelques instants. Ce sera dans les échos de la semaine. Comment les FinTech favorisent l'inclusion financière sur le continent? Le sujet continue de nous intéresser. Vous entendrez notre invité à ce propos. Il s'agit de Youssef Koun. Il est membre du comité Africa FinTech Forum. Notre destination éco nous mène à Abidjan, où vient de s'ouvrir la 2e édition de la foire Made in Côte d'Ivoire. L'objectif est de promouvoir le savoir-faire local et créer des opportunités d'affaires entre les PME. Vous aurez les détails en fin d'émission. Tel est le menu de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Je vous le disais à l'instant, Tanger a accueilli au cours de cette semaine la 8e édition de l'African Special Economic Zones Annual Meeting, un événement qui fédère une soixantaine de zones économiques de 48 pays. Je vous propose d'écouter Ahmed Benis, il est le directeur général de Tanger Med Zones et secrétaire général de l'AISO.
Nous travaillons ensemble avec les membres de notre communauté pour le développement de ces zones économiques, la prolifération d'un modèle africain dédié au développement de ces zones économiques avec comme perspective principale l'accélération de l'industrialisation sur notre continent, l'attractivité de l'investissement et puis permettre à l'Afrique de pouvoir rejoindre les chaînes de valeur mondiales et bien évidemment la création d'emplois à forte valeur ajoutée pour le continent. C'est les enjeux majeurs aujourd'hui pour les zones économiques spéciales qui sont un levier de croissance important pour le développement du continent africain. Les réalisations de ces dernières années nous ont permis de développer ce modèle africain pour le développement des zones économiques. Aujourd'hui, on se projette avec une feuille de route assez importante et qui va mettre comme axe majeur de développement le développement durable, le développement industriel soutenu, renforcé, améliorer l'attractivité de nos zones économiques, améliorer la compétitivité logistique qui permettra à ces zones économiques d'être un levier stratégique pour renforcer les échanges entre les différents pays africains et bien évidemment réussir ensemble l'implémentation de cet accord de libre-échange africain qui est aussi une réalité aujourd'hui à laquelle nous faisons face.
Autre événement important de cette semaine, c'était la 4e édition de l'Africa Place Marketing, un symposium au cours duquel s'est tenue la 2e édition du Forum africain du tourisme. Il était question de favoriser les investissements dans le secteur touristique africain, un secteur qui ne pèse que 6% dans le tourisme mondial. Écoutons le point de vue de Othmane Chérif Alami. Il est le président du Conseil régional du tourisme de Casablanca, CETAT.
Deuxième forum africain du tourisme de Casablanca STAT est une réunion importante qui a soulevé le point des investissements touristiques en Afrique et bien sûr au Royaume du Maroc et dans la région de Casablanca STAT. Avec les grands experts qui sont venus du monde entier, nous avons pu écouter les différentes expériences qu'ont vécues d'autres destinations, les succès, également les erreurs à ne pas faire, et nous avons souligné et enregistré que l'identité territoriale est très importante dans le développement territorial des destinations touristiques.
Coémergence, l'invité.
Il s'agit de Youssef Koun, membre du comité Africa FinTech Forum. Il nous parle dans cet entretien de l'évolution des FinTech sur le continent. Je vous propose d'écouter cette interview dans laquelle il commence d'abord par nous définir ce qu'est une FinTech.
FinTech, c'est la conjoncture de deux mots, finance et technologie. Et pour faire simple, nous sommes dans une ère où la technologie est un driver qui prend de plus en plus de place. Et désormais, il ne s'agit pas juste de faire de la finance, mais c'est de se dire comment la technologie est capable de changer la façon de faire la finance. Et donc, c'est un peu la conjoncture de ces deux sujets qui sont devenus aussi importants l'un et l'autre qu'une nouvelle industrie émerge depuis un certain nombre d'années et qu'on appelle FinTech, un peu à la star qu'on trouve dans d'autres secteurs comme la health tech ou l'éducation technologique ou l'agritech. Donc, c'est une conjoncture de deux savoir-faire qui apporte une nouvelle façon de consommer le service financier.
Alors justement, comment évolue ce type d'entreprise dans le continent ?
Alors depuis à peu près 3-4 ans, les FinTech ont le vent en poupe. Pour rappel, plus de 4 milliards de dollars d'investissements ont été faits dans des startups, dont une grosse partie dans les FinTech depuis donc ces quelques années. L'évolution principale aujourd'hui des FinTech se fait essentiellement autour des paiements. On a connu un peu partout sur les pays sur le continent une explosion des paiements. Alors, ça s'explique par les raisons suivantes. La première, c'est que le taux de bancarisation sur le continent est encore assez faible. Il fallait trouver un moyen, justement c'est là où la technologie est intéressante, pour permettre aux populations de pouvoir effectuer des paiements sans utiliser forcément de cash, en toute sécurité, et donc accéder à un moyen de paiement. Et donc le premier sujet qui est apparu, c'est les paiements, et depuis donc, un certain nombre d'années, on entend un ensemble de fintech qui font des levées de fonds extrêmement intéressantes. Je vais donner comme exemple Wave, qui est au Sénégal, il y a 2 ou 3 ans, a levé 150 millions de dollars pour développer son réseau. On peut prendre Flutterway, qui est une licorne déjà africaine, même si dans certains pays, elle a un peu du mal aujourd'hui. Et on peut aussi prendre des exemples en Égypte avec des grosses plateformes de paiement. Donc ça, c'est la première partie. Et son évolution est plutôt très intéressante et très prometteuse, avec une réglementation aussi qui commence à favoriser l'accélération des services apportés par les FinTech.
Vous donnez là des exemples très intéressants. Quand vous parlez de Wave au Sénégal dans le transfert d'argent, d'autres exemples que vous avez cités, il y a aussi ces initiatives en termes de facilitation des moyens de paiement que vous avez dit, par exemple, ça nous conduit vers la mobile banking, par exemple, on pense au M-Pesa dans des pays comme le Kenya. Justement, en quoi cela, en termes d'impact, a permis de rapprocher les citoyens de l'univers financier ?
Aujourd'hui, les statistiques sont assez claires. Un taux de bancarisation moyen en dessous de 20%, bien sûr, il change d'un pays à l'autre. Mais un taux de pénétration du mobile, des fois dans certains pays, supérieur à 100%. Et donc, si vous voulez, le service financier arrive que par le mobile. Il est facile de faire arriver sur le mobile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quel type de mobile ? On ne parle pas forcément de smartphone, de 5G, mais c'est le mobile avec SMS, avec ce qu'on appelle des technologies du type USSD, c'est-à-dire qui permet à des gens même qui ne savent pas très bien lire et écrire d'accéder aux services financiers. Et donc, ce qui fait que depuis un certain nombre d'années, il y a effectivement, vous avez cité M-Pesa, il y a une explosion en termes de consommation de ce type de service, ce qui fait qu'on a un nouvel indicateur qu'on appelle inclusion financière. Et donc, le taux d'inclusion financière sur le continent africain commence à être supérieur au taux de bancarisation. Et donc, ça veut dire que pour le continent, on n'a pas forcément besoin de consommer le service financier de la même manière que ça a été étudié ou présenté en Europe ou en Occident. Donc, on a notre propre façon de consommer le service financier aujourd'hui et les fintechs y contribuent.
En tout cas, c'est intéressant de parler d'inclusion financière plutôt que de taux de bancarisation. Je pense que c'est très intéressant parce que, comme vous le dites, des gens qui ont des portables, mais vraiment primaires, hein, qui parviennent donc à être connectés au réseau financier. Alors, aujourd'hui, quand on parle des fintechs sur le continent, Youssef Koun, où est-ce qu'on prend de l'avance? Est-ce sur le plan financier ou plutôt sur le plan technologique?
Comme on a commencé de très loin, donc on avance sur les deux sujets assez vite. Néanmoins, il y a une réalité extrêmement concrète. Les plus grosses fintechs aujourd'hui africaines ont levé de l'argent en dehors de l'Afrique. Donc ce sont des investisseurs américains, européens, asiatiques ou du Moyen-Orient qui font confiance aux projets et aux aventures présentées par ces fintechs. Donc, essentiellement sur les paiements aujourd'hui, mais pas que. Aujourd'hui, la microfinance arrive aussi avec sa digitalisation, avec les paiements, ce qu'on appelle fractionnés, donc paiements plusieurs fois, mais également autour de la TPE-PME, qui aujourd'hui n'est pas bien servie par les banques et où les fintechs essaient d'apporter une réponse. Donc, ça, c'est sur le volet investissement. Bien sûr, il y a des investisseurs africains qui investissent, mais la réalité, c'est que les investisseurs se trouvent, ou les plus gros se trouvent en dehors de l'Afrique. Et donc, comme j'ai dit, on a eu plus de 4 milliards d'investissements dans le monde des startups, ce qui est une croissance importante. En 2019, pour rappel, on était à 1 milliard à peu près d'investissements. Donc, ça vous donne un peu la tendance d'évolution. Mmh. Maintenant, les investisseurs sont très regardants sur la rentabilité de leurs opérations, ce qui fait qu'on ne peut pas juste avoir un investissement en présentant un pitch ou des slide deck en disant « voilà mon idée et voilà comment je prévois de la faire fonctionner ». Il y a un sujet sur la rentabilité qui est important. Ça, c'est le premier point. Sur le volet technologique, on est vraiment sur certains sujets en avance. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de l'USSD. C'est vraiment le continent africain qui drive ce sujet, qui est finalement les paiements par format type SMS et qui permet d'avoir un accès extrêmement simple, facile pour pouvoir exécuter le service. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le mobile money. Nous n'avons pas la même définition de mobile money qu'en Europe ou aux États-Unis. En Europe et aux États-Unis, le mobile money s'appuie sur une notion de porte-monnaie électronique, c'est-à-dire que c'est une carte qu'on virtualise et qui permet de payer. Donc, quand on va avec son téléphone payer en Europe, la réalité, c'est qu'il y a toujours une carte bancaire derrière. Nous, ce n'est pas du tout le cas sur le continent. Le mobile money, c'est vraiment un numéro de téléphone qui virtualise un compte de paiement. Et donc, sur ce sujet-là, nous sommes plutôt assez en avance parce que ça nous permet de se déconnecter du monde des cartes et ça nous permet de se déconnecter du type de téléphone qu'on peut utiliser. Ce qui fait qu'on a une technologie qui permet à des fintechs de venir proposer un service sans être obligé d'être raccordé à une monétique particulière ou à des cartes particulières ou à des téléphones en particulier.
En tout cas, c'est des éléments importants. Donc, il faut faire aussi la distinction entre mobile banking et mobile money. Alors, on se pose aussi, quels pays sont aujourd'hui leaders dans la promotion de ces fintechs sur le continent?
C'est un peu le principe des tailles de marché. Donc, je dirais que tout pays qui a plus de 100 millions d'habitants génère un intérêt. Donc, vous avez bien sûr le Nigeria, qui est connu pour ça aujourd'hui, l'Égypte, qui est aussi connu pour ça, qui, par leur taille de marché, génère un intérêt. Vous avez ensuite des pays à l'est comme Kenya, Éthiopie, qui évoluent assez vite. Et sur la zone Afrique de l'Ouest, je ne raisonnerai pas par un pays, mais vraiment toute la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest qui représente un gros potentiel. Et ensuite, vous avez le Maroc qui, par sa législation, crée les conditions pour que les fintechs puissent accélérer. On voit aussi la même chose en Tunisie avec la Banque centrale qui met à disposition ce qu'on appelle une sorte de boîte à outils pour que les fintechs viennent tester leurs idées. Et donc, aujourd'hui, vraiment, les pays qui sont les plus en avance sur le continent, c'est les pays qui sont à culture anglo-saxonne, où la notion du risque est différente que dans les pays à culture francophone.
Merci à vous, Youssef Koun. Je rappelle que vous êtes membre du comité Africa FinTech Forum.
Destination Éco.
Notre destination Éco nous mène à Abidjan, où vient de s'ouvrir la deuxième édition de la foire Made in Côte d'Ivoire. L'objectif est de promouvoir le savoir-faire local et créer des opportunités d'affaires entre les PME. Suivons ce reportage d'Hippolyte Dié, l'un de nos correspondants à Abidjan.
Des centaines de participants ont rallié le parc des expositions d'Abidjan lors l'ouverture de la deuxième édition de la foire Made in Côte d'Ivoire. Cette initiative vise à sensibiliser les PME à faire de la transformation des produits locaux leur cheval de bataille, à promouvoir l'innovation et la qualité des produits Made in Côte d'Ivoire et à créer un cadre de promotion de l'excellence en matière d'invention ivoirienne. La qualité Made in Côte d'Ivoire, opportunité d'affaires et facteur de croissance inclusive, tel est le thème de cette deuxième édition de la FOMSI. Aimé Croisant, commissaire général.
L'organisation d'une plateforme de promotion et de valorisation des produits et services fabriqués ou transformés localement est alors apparue comme une voie à explorer. Ainsi naît le projet de l'organisation de la foire du Made in Côte d'Ivoire qui prend effectivement ses marques le 15 mars 2018.
La Côte d'Ivoire ambitionne de transformer localement au moins 50% de ses produits agricoles avant 2030 et la mise en place de cette foire s'inscrit dans cette dynamique. Le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a précisé que le thème de 2023 met en avant le secteur privé. Souleymane Derasouba.
Dans une économie mondiale de plus en plus ouverte, un contexte régional marqué par la création de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, et les accords de coopération sous-régionale qui prônent la libre circulation des personnes et des biens, l'industrie locale doit mettre l'accent sur la qualité de sa production pour être compétitive, conquérir le marché local et d'autres marchés à l'international.
De 33 en 2018, le nombre d'exposants de cette rencontre est passé à plus de 100. Les participants expriment leur satisfaction. Olga Ballo.
C'est une opportunité d'affaires pour rencontrer des partenaires d'affaires qui peuvent nous accompagner dans tout ce que nous faisons pour rendre ça encore plus grand, pour industrialiser ce que nous faisons.
La première édition de la FOMSI s'est tenue du 25 juillet au 5 août 2018 sous le thème « La commercialisation des produits Made in Côte d'Ivoire, enjeux et défis » à Abidjan, Hippolyte Dié pour Medi 1.
Merci à vous, Hippolyte Dié, correspondant de Medi 1 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.